there's something to do for the rich people too. Bienvenue dans Tabloïd sur Radio U, une émission à mi-chemin entre les enquêtes impossibles de Pierre Belmar et Nostalgie. Même si je dois dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus Nostalgie que l'on est Pierre Belmar. Je suis Captain Payette et je vous propose une enquête sur un artiste francophone pour changer un peu, mais pas n'importe lequel. Joe Dassin. Joe Dassin, c'est 14 ans de carrière, plus de 250 chansons enregistrées, 50 millions de disques vendus, dont 33 à l'étranger. C'est impressionnant. Il y a déjà 40 ans, l'homme au costume blanc nous quittait, foudroyé par une crise cardiaque dans un restaurant de papeterie à Tahiti. Et pourtant, 40 ans plus tard, le répertoire de Joe n'a rien perdu de sa popularité. Et de nouvelles générations continuent de le découvrir de manière posthume, comme moi par exemple. Pour preuve, Sony a recensé plus de 300 millions d'écoutes de ses chansons en streaming en 2019. C'est pas rien. Mais qui se cache derrière ce joyeux personnage? C'est ce qu'on va découvrir dans cette émission, avec d'abord un résumé de sa trépidante vie avant d'être chanteur, puis avec un super blind test avec les chansons reprises de Joe Dassin, car l'ami Joseph n'a pas fait que dans l'original, loin de là. Alors pour vous mettre en bouche pour cette émission, voici quelques pépites d'infos croustillantes sur l'ami Joe. Petit rappel de la dernière émission sur la guerre froide. Est-ce que vous saviez que Joe Dassin était extrêmement populaire en Russie pendant la guerre froide? On s'arrachait ses disques sur le marché noir. C'est dingue. Mais il a été aussi pigiste pour Playboy Magazine et The New Yorker avant d'être chanteur. Une fois, il a failli se faire bouffer la main par un ours. En parlant de se faire bouffer, vous saviez qu'il a composé des chansons pour France Gall, dont Bébé Requin.
Moi je lis Bébé Requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé Requin, bébé.
Il a aussi composé Big Bisou de Carlos, Seigneur Météo et Le Bougalou du Loup-Garou. Il semble qu'ils étaient même très potes, les deux, apparaissant très très fréquemment à la télé ensemble. Et Joe mourait d'envie d'avoir sa propre émission de télé, être le présentateur. Qui sait, si il n'était pas mort soudainement, peut-être qu'on aurait eu un dessin animé Joe Dassin au lieu de celui Carlos qu'on a eu. Et d'ailleurs, tout comme Carlos, fils de Françoise Dolto, Joe a une famille très talentueuse. D'abord, il y a sa mère, Béatrice Lohner, une violoniste virtuose d'origine hongroise qui apprend au petit Joe, haut comme trois pommes, la guitare, le banjo et le piano. Et puis, il y a sa sœur, Julie Dassin, actrice et chanteuse et qui a notamment doublé Rosanna Arquette, / Johanna, dans Le Grand Bleu, et a collaboré avec Brigitte Fontaine sur 20 secondes. On va écouter les 20 secondes entièrement. Mais surtout, il est le fils d'un grand réalisateur américain, Jules Dassin. Et si on se souvient désormais un peu plus de lui que de son père, eh ben, c'était tout ce dont on lui parlait au début de sa carrière de chanteur.
Vous êtes le fils de Jules Dassin, le metteur en scène. Oui. La mise en scène ne vous tente pas?
Si, ça me tente beaucoup.
Et vous essayez de vous lancer dans la chanson?
Oui, mais c'est une chose entièrement à part. C'est une chose qui s'est présentée un peu par hasard.
J'ai vu un paquet d'interviews de lui pour cette enquête et c'est incroyable à quelle fréquence on lui demande si ça l'a aidé d'avoir un père connu. Et même très tard dans sa carrière. Et Joe répond toujours très gracieusement avec sa verve naturelle.
Le fait d'avoir un père célèbre, connu, est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est un avantage?
Je ne crois pas que ce soit un handicap, mais je crois que le côté avantage peut être exagéré. Prenons par exemple le disque que je viens de faire. Un programmateur de radio reçoit 200 disques par semaine. Et sur ces 200 disques, il va en passer peut-être une cinquantaine, peut-être même pas. Or, s'il ne connaît pas un disque, mais qu'il voit un nom qu'il connaît sur la couverture, il va peut-être l'écouter plus rapidement qu'un disque qui n'a pas un nom connu sur la couverture. Si vous voulez, ça vous ouvre des portes, mais ça vous les ouvre à moitié. Un nom qui est connu, évidemment, ça accroche une oreille.
Mais alors, qui est ce mystérieux personnage qui a affolé les hit-parades et les filles pendant une carrière fulgurante de 14 ans et qui parle avec l'éloquence d'un Edouard Baer? Joe Dassin, de son vrai nom Joseph Ira Dassin, vient au monde le 5 novembre 1938 à New York, aux États-Unis. On dit qu'il s'appelle Dassin ou Dassin parce que lors de son arrivée au centre des migrants à New York, son grand-père, Samuel, juif russe, a répondu « Odessa » à l'officier qui lui demandait son identité. Et lui, il croyait qu'on lui demandait sa ville d'origine. Du coup, il a dit « Dassin » ou « Dassin ». Et c'est ce que l'officier a écrit sur le formulaire. Ils ignorent toujours leur vrai nom de famille. Quand Joe grandit, son père, Jules, est un comédien de second plan qui tente de se faire un nom dans le monde du spectacle. Les choses s'arrangent dans les années 40, quand il devient l'assistant d'Alfred Hitchcock. Puis, à son tour, il réalise des films tels que Les Forbans de la nuit et Du rififi chez les hommes qui propulse sa carrière. Le petit Joe mène alors une enfance paisible avec ses deux sœurs Rachel et Julie, sous le soleil de la Californie. Mais quand les premiers symptômes de la guerre froide se font connaître, son papa, Jules, est vu comme ennemi dans son propre pays. Et il devient une des premières victimes de la chasse aux sorcières de McCarthy contre les communistes. Pour info, Jules a eu sa carte au parti dans les années 30, mais il a quitté le parti après le pacte germano-soviétique en 39. Mais il est lâchement dénoncé par un collègue réalisateur qui voulait éviter la prison. Il est fiché sur les listes noires, ce qui oblige la famille Dassin à plier bagages et de quitter le pays en 1949. Après des années d'incessants déplacements à travers le monde, la famille Dassin s'installe à Paris. En 6 ans, on dit que le petit Joe aurait fréquenté pas moins de 11 lycées à Rome, à Londres, Paris, Savigny-sur-Orge, Genève et Grenoble où il passe son bac. Il disait en plaisantant « Dans ma famille, nous sommes polyglottes par force, il a fallu changer tellement de pays ». Des déménagements constants qui ont sans doute inspiré la chanson « Le chemin de papa » en 1969. Ses parents divorcent en 1954 quand il a 16 ans, sous fond de tromperie par le paternel. On dit que Joe Dassin l'a super mal vécu et a décidé d'aller en Amérique en pleine année scolaire pour faire un pied de nez à son père, qui n'avait pas droit d'y aller.
Les amis, je dois m'en aller, je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né, l'Amérique.
Il décolle pour Détroit, ville de la Motown, pour aller à l'université du Michigan. La seule à bien vouloir l'inscrire en plein milieu de l'année, il y entreprend des études de médecine, mais il switch au bout de 3 ans pour l'ethnologie. Quand il arrive en Amérique, Joe Dassin a 17 ans et 300 francs en poche. On se doute que la vie de vagabond auquel il a été habitué a dû le rendre plutôt débrouillard. À côté de ses études, il cherche un petit boulot pour payer ses factures. Il en fera 1000 ou presque. D'abord à la cuisine dans un resto U, puis à la plonge pendant 6 mois, puis devient plombier 2 mois, puis chauffeur de corbillard, bibliothécaire, testeur psychologique et enfin chauffeur routier. Enfin un boulot qui lui convient. Il livre des plantes de Chicago à San Francisco pour les jardins botaniques. Ce job est plutôt bien payé et le fait explorer l'Amérique qu'il attendait depuis qu'il était né. L'aventure est là dans le sang. Un jour, il part en Alaska sur un coup de tête. Mais cette histoire, mais qui de mieux pour la raconter que Joe lui-même ? Le voici au tout début de sa carrière, la veille de Noël 1966, dans Discorama, une émission de télé.
Tous les 24 décembre, je pense, 24 décembre le plus spectaculaire que j'ai jamais passé, c'était pendant que j'étais étudiant aux États-Unis, je faisais mes études à Détroit. Et pour aider le financement de ces entreprises, je conduisais un camion entre Détroit et San Francisco. Il m'est arrivé le 23 novembre d'arriver à San Francisco et de trouver que la remorque que je devais chercher n'était pas prête. Alors avec le copain qui conduisait le camion avec moi, on a décidé que comme on n'avait jamais vu l'Alaska et qu'il fallait un peu de neige pour le 23 parce qu'il n'y en a jamais à San Francisco, qu'on partirait. On a laissé tomber notre remorque et on est parti. On a fait 2600 km pour arriver à Fairbanks en Alaska en tracteur et on a passé la journée et la nuit du 24 dans une église noire où on chantait que des spirituels de Noël. Mais ça, c'est il y a déjà 4 ans, ça.
L'été suivant, il fait une dernière folie. Le tour des États-Unis en autostop. Il parcourt la Virginie, la côte ouest, la Floride, la Nouvelle-Orléans, le Texas, le Nevada, San Francisco, l'Idaho et tous les parcs nationaux. D'ailleurs, au parc de Yellowstone, il se fait presque bouffer la main par un ours en voulant lui donner un sandwich au jambon. Pas une très bonne idée. From Colorado, Kansas and the Carolinas too, Virginia and Alaska, from the old to the new. La grande aventure, c'est bien, mais le fait d'être 4 jours sur 7 sur la route ne favorise pas vraiment ses études. De retour à l'université, il est mi-plongeur, mi-étudiant enseignant et propose au patron d'un café d'étudiants de chanter du folklore français pour une poignée de nickels. Et quand il dit folklore français, il parle surtout de Georges Brassens, son idole absolue.
Est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente.
Il rencontre un petit succès local, mais ne prend vraiment pas la musique au sérieux à ce moment-là. Il est ethnologue après tout.
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Il rentre en France avec un doctorat en poche quand même, après avoir fait une thèse sur les Indiens Hopi d'Arizona. Ce sont eux qu'on entend là en train de chanter. Un sacré personnage, ce Joe. et son bagage anthropologique se ressentent dans ses interviews plus tard. Dio, c'est le gars qui te fait une réponse à la Édouard Baird dans Astérix Mission Cléopâtre à chaque question d'un jeu de la vérité dans un magazine pour ados. Après son retour en France, il décide de continuer dans l'ethnologie, mais son diplôme américain n'est pas reconnu ici, et finalement ça le saoule un peu d'être professeur d'ethnologie. Il a peur d'être déjà enterré à peine 25 ans. Il décide donc de travailler pour le Padre en tant qu'assistant sur des tournages, et puis plus tard, il écrit aussi des articles pour le magazine Playboy et The New Yorker. Le mec, il a eu 1000 vies différentes. Il a aussi eu 1000 filles différentes. Puis il rencontre Maryse Massiera, son premier véritable amour et celle qui va être à l'origine de son premier coup de chance dans la musique.
Sans savoir rien faire, la fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes...
Une de ses amies travaille chez CBS, un géant de l'audiovisuel américain, fraîchement installé en France pour produire ses artistes en Europe. Pour faire une surprise à son amoureux, Maryse demande à cet ami de faire un disque après une bande magnéto où Joe chantait Freight Train. Freight Train a été écrit par Elizabeth Cotten, une vieille dame fascinante. Je vous conseille de lire un peu plus sur elle. Oh, sa petite voix frêle m'a beaucoup émue cette semaine. C'est vraiment la découverte de cet épisode. Ce disque, enregistré en un seul exemplaire, devait être un cadeau pour les 26 ans de Joe. Mais par chance ou stratégie, il tombe dans les mains de quelqu'un du staff de CBS, qui kiffe grave la voix suave de l'Apollon Myope. Il faut dire que le gars, il chante bien, il parle incroyablement bien, en français et en anglais, et en plus, il est le fils d'un réalisateur hyper connu. Évidemment, la direction veut le faire signer. Il serait leur premier artiste francophone. Joe, lui, n'accepte que 2 mois après. Il va essayer, mais juste pour voir et pour rire, finalement. Il sort Je change un peu de vent, une version de Freight Train adaptée en français. Titre tout pourri, soit dit en passant. Les débuts ne sont pas terribles niveau bande de disques, mais il persévère et s'entoure de mieux en mieux. Au gré de tubes mineurs et de ses très nombreuses apparitions à la télévision, il devient une vedette et ses titres se classent de mieux en mieux au hit parade. En 65, c'est Bip Bip, un disque de 4 chansons, 4 reprises, qui connaît une petite notoriété à la radio. Et ce n'est qu'en 1967, sur son 4e EP et son 2e album, qu'il rencontre véritablement le succès au hit parade. Avec les Dalton.
La fille d'à côté en voiture décapotée, la mère exaspérée me fait signe d'avancer. Mais c'est déjà
il a quand même essayé pendant 3 ans. C'est beaucoup pour un gars qui essayait de le faire juste pour le fun. Sur ses 2 albums, un mélange de ses compositions originales mises en parole par des collègues et des reprises de classiques du folklore américain, irlandais, espagnol. Et bah oui, monsieur est ethnologue et polyglotte. Si monsieur Dassin a composé la musique de beaucoup de ses chansons, telles que la bande à Bono, il a toujours laissé d'autres personnes se charger de l'écriture des paroles. Ce sera vrai pour toute sa carrière. Depuis toujours, il est plus à l'aise en anglais qu'en français. D'ailleurs, tout ce qu'il lit, tout ce qu'il écoute est en anglais. Mais il s'est bien entouré et sera fidèle à une poignée de paroliers. Jean-Michel Riva, Franck Thomas et Claude Lemel principalement. Mais aussi sa sœur Richelle. Des chansons composées par Dio, on a la très marrante Va des rétro, l'hymne semi-fataliste, ça va pas changer le monde, mais aussi À toi, magnifique chanson romantique, issue de son 10e album en 1976.
À la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois.
Et puis, il y a La fleur aux dents en 1970, une musique que Dio a composée lui-même. Pour son parolier Claude Lemel, cette chanson a été un véritable calvaire. Dio lui a fait retravailler les paroles constamment pendant 2 mois, si bien qu'il aura fallu 2 cahiers entiers de réécriture pour parvenir à la perfection de La fleur aux dents. 2e meilleure vente de 45 tours de l'année 1971.
J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a des filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. J'ai connu des lits de camp bien plus doux qu'un oreiller, et des festins de roi sur le zinc d'un buffet de gare. J'ai connu bien des gens, je les ai tous bien aimés, mais dans leur visage au fond je n'ai rien fait que te chercher. Il y a les filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a les filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. Un jour ici, l'autre là, un jour riche et l'autre pas. J'avais faim de tout voir, de tout savoir, j'avais tellement à faire. À me tromper de chemin tant de fois, j'ai quand même fini par trouver celui qui mène à toi. Il y a des filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait.
Hey, 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 welcome back. On vient d'écouter La fleur aux dents de Joe Dassin et c'est de lui qu'on parle aujourd'hui dans Tabloïd. Nous parlions de ses compositions originales, maintenant on va s'intéresser à ses reprises et elles sont nombreuses. Au risque de casser un mythe, je vous propose un petit jeu très amusant. Et si vous avez écouté l'épisode sur Boney M, vous savez bien que j'adore trouver des versions originales moins connues que leurs reprises. Vous pouvez jouer à ce blind test de chez vous. Je vais vous mettre 15 secondes de chansons dans leur version originale et vous devez deviner le titre de la chanson de Joe Dassin. Ok? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors on va commencer fort avec...
Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol.
Bon, celle-ci était un peu évidente, mais c'est pour vous mettre en jambe. Guantanamera est une chanson cubaine, sûrement la plus connue de son pays, qui daterait quand même du XVIIe siècle. Dans la version originale, Guantanamera parle d'une habitante de la ville de Guantanamo. Une Guantanamera, tout comme on dirait une brestoise. Alors chez Dio, Guantanamera est devenue une ville. C'est quelque peu incorrect. Et on enchaîne avec...
As she walks through the street,
Ça, c'est une originale que je trouve meilleure que la version de Joe Dassin, qui devient « C'est la vie, Lily » en français. J'espère que vous l'avez reconnue. On sent la patte de Jimi Hendrix, qui a produit cette chanson pour le groupe original « Cat Mother and the All Night News Boys » en 1969. Et maintenant... Walking down the street today, I saw a girl across the way. I asked her where she's going and she said come with me. She took me down this avenue. On a bien évidemment reconnu aux Champs-Élysées, une des chansons les plus connues de son répertoire et une des chansons françaises les plus connues au monde. Elle est devenue un symbole de l'Hexagone, elle est chantée dans tous les mariages de France et de Navarre, et elle est utilisée lors de déplacements diplomatiques. Mais cette chanson, elle est en fait anglaise. Et elle parle de Waterloo Road à Londres, normalement, avec la même histoire. Joe et sa bande n'ont fait que choisir une destination un peu plus frenchy et transposer le texte en français. Et voilà, vous avez eu un hymne aux rencontres sans lendemain qui claque.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil sous la pluie.
Bon, j'espère que vous ne vous sentez pas trop trahi après cette dernière petite déconvenue. Allez, on continue à détruire le mythe Joe Dassin avec... Autre paradoxe musical avec cette chanson qu'on a tous reconnue. C'était l'Amérique.
Mais
elle a beau parler de l'Amérique, elle a été composée par des British, encore une fois. Dans ce titre, véritable cri d'amour à son pays d'origine, il décrit une vision mythique du continent foulé par son grand-père quelques années plus tôt. Interviewé par Georges Decaune à propos du sens de ce titre, le chanteur lui confie « J'ai fait cette chanson en m'inspirant du mythe qui avait fait quitter l'Europe à mon grand-père. Mais mon Eldorado à moi, c'était la France. » De l'Amérique, il dira de belles choses, mais il dira aussi qu'il ne pourrait jamais y vivre.
Vous retournez volontiers aux États-Unis, Joe Dassin ?
Pour visiteur, en visiteur. Je suis parti en sens inverse, j'ai pas du tout l'intention de repartir là-bas. J'aime bien, il y a des coins extraordinaires, mais je trouve invivable.
Ah bon ?
Oui, non, je trouve que l'Europe est un pays où on sait vivre, on prend le temps de vivre, et que les États-Unis est un pays excitant, mais finalement, à la longue, les gens ne vivent pas.
Eh bien, c'est pas sûr que les choses se soient arrangées depuis sa mort sur ce point-là. Allez, on continue avec... La promesse de la chanson originale de Riccardo del Turco, Giuglio, les amours de juillet sont des amours qui ne se finissent jamais. C'est beau, hein? Bon, pas d'histoire de pain au chocolat donc dans la version originale, ni de belles boulangères éprises d'un myope.
Il était myope, voilà tout.
On peut imaginer que les paroles de la version de Joe Dassin sont tirées d'expériences personnelles. de sa myopie légendaire, il dit « Ma gaffe continuelle vient du fait que je suis myope. Donc, à moins de me retrouver nez à nez avec les gens, je ne les reconnais pas ou je les prends pour d'autres. En contrepartie, à plus de 4 mètres, pour moi, toutes les femmes sont belles. Sacré Dieu. » Et maintenant, en parlant de femmes. Là, le piège, c'est que la version de Joe Dassin a été éclipsée au profit de l'original. On a bien évidemment reconnu No Woman No Cry de Bob Marley en 1974. Mais qui se souvient du titre de l'adaptation ?
Si tu penses à moi.
Eh bien, c'était Si tu penses à moi, reprise 4 ans plus tard par l'ami Joe. Et peut-être qu'on préférait l'oublier, celle-là. Petite mention quand même pour le paragraphe sur la mer d'Iroise.
La mer d'Iroise est un grand pétrolier où tout est noir, le ciel est l'or.
Si tu t'appelles Mélancolie, si l'amour n'est plus...
Encore une reprise avec Si tu t'appelles Mélancolie, tirée d'une chanson du groupe américain assez peu connu, Shepstone et Dibbins. Un duo magnifiquement kitsch des années 70. Et si on commence à surfer la vague kitsch, allons-y franchement avec ça. Ça, c'était Blue de Luciano Angeleri, un chanteur italien. Mais qui aura trouvé le titre ? Eh bien, c'était le dernier slow en 1979. Ça, c'est le genre de Joe Dassin que j'aime moins. Le gros lover de la période disco, avec les gros cœurs dégueulasses derrière. Je suis beaucoup moins fan, personnellement. Et maintenant, la meilleure de toutes ! C'était les Dalton, et oui, l'original est des Brothers Four, un groupe américain, et s'appelle The Song of the Ox Driver. Réécrite par Jean-Michel Riva et Frank Thomas, elle devient une chanson super drôle sur les quatre criminels du Far West des albums de Lucky Luke. Elle est initialement destinée à Henri Salvador, mais le directeur artistique de Joe Dassin exige qu'il la garde pour lui. Et c'est d'ailleurs ce directeur artistique qui fait les voix du shérif au début. Et c'est une excellente idée de sa part, parce que les Dalton est le titre qui va faire décoller la carrière de Joe Dassin en 67. Mais c'est aussi sa dernière chanson comique. Il est devenu plus sérieux après. En plus, le mec a appris à manier le lasso pour son spectacle. Et je dois dire que c'est super impressionnant. La hula-houpeuse en moi est restée bouche bée. Évidemment, je vous mets le lien sur la description du podcast. Puis dans la même veine, on a cette super chanson. C'est parti !
Se quitó el frío viento, todos ya cantaremos y también bailaremos y todos estaremos.
La folie taca taca ta déferle sur l'Europe en 1972. Cette chanson d'un artiste espagnol nommé Paco Paco est reprise par Joe Dassin, mais pas que lui, il y en a d'autres aussi. En Finlande, ils sont tellement dingues de cette chanson que trois versions sont carrément rentrées dans le hit parade dans la même année. Paco Paco y évoque un thème super sérieux, mais universel, son amour pour l'été. Il y raconte aller à la plage avec ses amis et voir des gens très heureux. Oui, ça dénonce fort. Ça se demandait qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'adaptation française. Parce que avec Joe, ça devient l'histoire d'un mec qui s'est tapé la femme du torero et se retrouve dans une situation plus que périlleuse. Bon, pourquoi pas ? C'est original !
Et c'est depuis ce jour qu'un torero me condamne à balayer sa cour pour l'avoir faite à sa femme.
Et une autre.
Illinois Central, Monday morning rain. There's 15 cars and 15 restless riders. Three conductors and 25 sacks of mail.
Ah, vous avez reconnu celle-là ? C'était « Salut les amoureux ». Dans l'original, Steve Goodman raconte un voyage de Chicago à la Nouvelle-Orléans et tout ce qu'il voit passer par les fenêtres du train. Joe Dassin change radicalement de thème de la chanson en l'adaptant en langue française. Il choisit le sujet épineux de la rupture amoureuse. Et avec un brin de mélancolie, mais surtout de l'optimisme, je dirais, Joe dépeint la rupture comme une fin qui annonce un nouveau départ, un nouveau voyage dans la vie, en fait. C'est beau ? Quel poète ! Allez, c'est parti pour une autre. Est-ce que vous êtes prêts ? Elle est... C'est pas la plus simple.
Was it 30 June, another sleepy, dusty, delta day? I was out chopping cotton.
Cette chanson atypique, sans véritable refrain, nous vient de Bobby Gentry, une envoûtante chanteuse américaine en 1967. L'action se passe dans le delta du Mississippi. Autour de la table d'une famille de paysans, la mère annonce sans pincette que Billy Joe McAllister s'est jeté du pont de la rivière Tallahatchie. Ce qu'elle ignore, c'est que sa fille s'était épris du suicidé et qu'on les a vus jeter quelque chose du pont avant que l'homme s'y jette. Transposé en français d'une manière extrêmement fidèle, Joe fait retravailler l'adaptation sans cesse. Encore une fois, il est très exigeant. Et cette chanson fait jaser en 1967. À l'heure où la France connaît d'âpres débats sur l'avortement, on se demande qu'est-ce que Marie-Jeanne a jeté du pont de la Garonne avant de s'y jeter. Des fleurs, une bague de fiançailles, de la drogue, ou peut-être le triste souvenir d'un avortement. La mère dit « Elle n'était pas très maligne, la Marie-Jeanne ». En plus, sur la deuxième face du disque, on trouve « Tout petit bébé a besoin d'une maman ». Une chanson qu'on pourrait croire parfaite pour la manif pour tous si on écoute d'une oreille distraite. Mais le message caché de cette chanson est en fait un plaidoyer pour des naissances désirées et donc de la contraception ou de l'avortement. on sent que les paroles de Joe prennent un virage un peu plus politique à l'aube des troubles de mai 68.
Ils ont tout pavé pour faire le grand parking.
On a même des hymnes plus ou moins écolos, tels que le grand parking en 1970, qui est aussi une reprise évidemment, une reprise de Big Yellow Taxi de Joni Mitchell.
Ils ont tout pavé pour faire le grand parking.
Dans cette chanson, elle se lamente de voir des grands parkings apparaître là où était la nature avant. Et je pense que vous reconnaissez cette chanson d'ailleurs, peut-être. Elle a été samplée par Janet Jackson dans Got Till It's Gone en 1997. On continue notre blind test avec peu importe qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve sur ma route, ce qui compte pour quelqu'un de tranquille comme moi, c'est de te garder près de moi. C'est ce que chante Ricardo del Turco, oui, encore lui, dans l'original de Siffler sur la colline. Uno Tranquillo, gros succès en Italie en 1967. La version de Joe Dassin est adornée d'un nouveau thème, cette drôle d'histoire de foire du village et d'une jolie fille insolente est sortie quelques semaines avant les grands tumultes de mai 68. Elle fera partie intégrante de sa bande originale, un peu malgré elle. Pourquoi ça ? Eh bien parce que en mai 1968, les radios sont en grève et ne programment plus que de la musique. Siffler sur la colline, qui était déjà quand même assez populaire, passe encore plus en boucle qu'à l'habitude sur les ondes. Elle devient alors un succès quelque peu paradoxal car complètement à contre-courant des enjeux de l'époque qui étaient plutôt urbains. Elle jouit toujours d'une certaine popularité, en petite mention peut-être pour l'interprétation magnifique de Jean-Pierre Bacri dans On connaît les paroles. Rest in peace, JP.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zaï.
Vous écoutez Tabloïd sur Radio U avec une enquête spéciale Joe Dassin. Allez, on retourne au blind test avec un sacré dossier. C'est parti.
I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now.
Ah, non, l'été indien n'a pas non plus été composé par Joe Dassin, ni écrite d'ailleurs. Mais c'est lui qui l'a transformé en succès international. À la base, c'est un espèce de slam de Toto Cutugno. Oui, ce Toto Cutugno.
Lasciatemi cantare.
Dans cette chanson, il vante les mérites de l'Afrique et veut fuir la mer de ciment et le trafic des grandes villes. À noter que l'original n'a pas de refrain et ne rencontre pas un franc succès en Italie. Faut dire qu'elle est un peu chelou, hein. Moi, je trouve que ça sonne un petit peu comme un discours de Trump mis en musique. Pas vous ?
Mmh.
où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin.
Toto Coutugno avait prévu que ce soit Claude François qui en fasse la version française, mais le chanteur a loupé la date butoir à cause d'une panne d'oreiller. On dit qu'il se serait couché très tard la veille.
Ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais.
Le partenaire de Joe, Jacques Play, se rue sur l'occasion et refile la patate chaude aux deux adaptateurs de Dassin, Delanoë et Lemel, afin d'en faire un tube.
Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait.
Encore une fois, les paroles en français sont à mille lieues de l'original. Ils optent pour un slow langoureux qui évoque avec nostalgie une ancienne histoire d'amour sur fond de couleurs automnales de la côte est américaine. Ils nous promettent l'été indien, un terme qui n'était pas encore popularisé en France. Mais je vais laisser Joe l'expliquer, comme sur le plateau de SR Mosaïque le 11 février
1976. Bah, l'été
indien, non, l'été indien, c'est... Bah si,
c'est l'été de la Saint-Martin.
C'est l'été de la Saint-Martin, tout simplement, c'est-à-dire que c'est la période où il fait beau après l'automne. C'est de Québec, ça vient. C'est l'été des Indiens, ils appellent ça en réalité.
Et dans le nord des États-Unis également, vous l'avez connu lorsque
dans le nord des États-Unis et tout le Canada, oui. C'est quand les feuilles ont bien tourné, c'est magnifique d'ailleurs. C'est splendide, vous voyez, des collines entières d'arbres avec des feuilles.
Un automne où il faisait beau, jaune, vieux. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique.
Oh, il sait vraiment peindre des paysages avec des mots, le Joe. Cette réécriture devient le slow de l'année 76 et signe son grand retour après une petite traversée du désert, disons. C'est aussi le single le plus vendu de sa carrière. En 1975, elle adoucit un peu les mœurs dans une France percutée de plein fouet par la crise économique. 1 million d'emplois perdus en un an.
Mais où est Joe Dassin en 2021, hein?
Après le succès ahurissant de l'été indien en 1975, Joe continue de travailler avec le compositeur Toto Coutugno et son équipe afin de pondre des nouveaux tubes tels que « Le jardin du Luxembourg »,« Il était une fois nous deux », Et si tu n'existais pas. Et pour cette dernière, Joe a fait travailler ses paroliers d'arrache-pied pour ajouter des mots à une mélodie de Toto Coutugno. C'est donc une chanson originale, même si c'est pas lui qui l'a composée ni écrite.
Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour.
À notre grand bonheur et surtout au grand malheur de nos oreilles, elle a été reprise par de nombreux artistes depuis sa sortie. Des artistes tels que Lara Fabian et Daniel Lévy, mais aussi l'illustre Willie Denze en 2005.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.
Bon, après on a aussi Mario de la Star Academy 1 qui nous a fait une version bien dégueulasse, semi-électro, semi-Patrick Fiori. Elle est absolument à gerber. Mais l'introduction de la chanson a aussi été samplée par un rappeur brésilien nommé Criolo. Il y a eu aussi un chanteur polonais qui l'a reprise. C'est bizarre en polonais. Et le meilleur, évidemment, Iggy Pop en 2012 pour l'album Après. On sent qu'il galère un peu sur les R, mais ça reste la meilleure tentative de reprise que j'ai entendue. Alors comment ça se fait que même Iggy Pop se met à faire du Joe Dassin ? Bon, ça c'est une énigme totale. Mais on doit dire que les reprises du chanteur au costume blanc ont une certaine cote. Et aussi que les fils Dassin ont bien su capitaliser sur l'héritage musical de leur père. Exemple, en 2010, il y a eu une comédie musicale slash biopic sur sa vie. Il était une fois Joe Dassin, un succès commercial. 3 ans plus tard, on a l'horreur ultime. Un album de duo virtuel avec Hélène Segarra. Et enfin, l'année dernière est sorti un autre album de reprise par des chanteurs et des chanteuses de la nouvelle génération pour commémorer les 40 ans de sa mort, évidemment. Comme quoi, Joe Dassin est loin d'être oublié. Mais qu'est-ce qu'il penserait de tout ça, de toutes ces reprises qui sont faites en son nom ? Eh bien, de ces ventes de disques, Joe disait « Ce n'est pas le chiffre de vente qui me comble de joie, c'est en marchant dans la rue, d'entendre un peintre en bâtiment chanter à tue-tête une chanson que j'ai créée. Ou quand je fais mon plein d'essence, d'être servi par un pompiste qui la fredonne sans savoir qui est son client. Qu'une de mes chansons puisse devenir le plaisir, parfois le soulagement de ces gens durant leur travail, c'est cela qui me procure un sentiment d'exaltation. » Là-dessus, je trouve que Joe Dassin a plutôt réussi sa mission, je dirais. Il aurait été ravi que les mélodies qu'il a composées trottent toujours dans la tête des gens 40 ans plus tard. Des mélodies si joyeuses et insouciantes et des mots simples pour parler de choses profondes, c'est ça, Joe. C'est ça, Joe. Des souvenirs d'une existence plus simple, d'un temps révolu, où on se prenait moins la tête. Et c'est peut-être cette nostalgie collective des 30 Glorieuses qui a fait sa popularité endurante. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Je pense que vous avez remarqué que durant cette émission, j'ai sciemment choisi de ne pas rentrer dans les histoires d'amour parfois compliquées ou les histoires de drogue malgré le nom de l'émission, tabloïde. C'est un peu le comble. Mais j'avais pas envie avec Joe. Peut-être que c'était par respect des morts ou alors par peur d'entacher mes souvenirs d'enfance quand je me bidonnais avec ma sœur en écoutant les Dalton ou les petits pains au chocolat. Il y a quelque temps, on m'a demandé quelle célébrité je referais vivre si j'en avais le choix. Eh bien, je crois que ce serait lui. À ça, on m'a répondu qu'en vieillissant, il serait sûrement devenu un gros réac, comme beaucoup de ses congénères. Entre garde, Michel. Mais j'en suis pas si sûre, en fait. J'aime imaginer ce qu'il aurait dit du chemin qu'a pris le capitalisme ces dernières décennies, ou des confinements à répétition. Qui sait, il aurait peut-être même fait une meilleure chanson que Renaud sur le coronavirus.
Connard de virus.
Une chose est sûre, Joe ne se voyait pas dépérir comme un vieux chanteur, accroché à la célébrité jusqu'à son dernier souffle. Il se voyait bien passer une retraite paisible à Tahiti, à jouer au golf et à pêcher à la ligne avec ses deux fils. Ses problèmes cardiaques auront eu raison de ces plans-là. Le 20 août 1980, à 12h30, il succombe à une énième crise cardiaque devant son fidèle ami Carlos dans un restaurant de papeté. Dans un ultime souffle, il dit « Oh merde, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est donc ça les dernières paroles de cette légende.
«
Eh bien, merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tabloïd. Comme toujours, vous retrouverez des bonus et la playlist du podcast sur le site de Radio U, rubrique Tabloïd. Et surtout, partagez cet épisode avec tous les fans de Joe Dassin que vous connaissez. Je sais qu'on est nombreux. Et nous, on se retrouve dans un peu plus d'un mois, le 23 mars, avec un nouvel épisode truffé de pépites d'infos. Je vous laisse avec Les yeux d'Émilie, une chanson qui raconte l'hiver au Québec et qui va bien avec les basses températures de ces derniers temps. À très bientôt, comme dirait Joe. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, zai, zai.
Dans son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Je réchauffais ma vie à son sourire.